Père Jean-Yves, frère Mathieu Combe, ravi de vous trouver sur les ondes de Radio Maria France.
Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour.
Dites-nous donc, il semblerait que vous connaissiez Radio Maria pour commencer, non?
Oui, tout à fait.
Eh bien nous allons en tout cas vous découvrir cette congrégation Notre-Dame d'Espérance, votre charisme, et là en particulier le prieuré Saint-François de Sales.
Oui.
Dites-nous s'il vous plaît, pour commencer, quel lien avez-vous avec le grand docteur Saint-François de Sales?
C'est-à-dire que nous sommes dans le diocèse d'Annecy, donc dans son diocèse, et puis aussi Saint-François de Sales avait voulu organiser une vie religieuse pour des personnes de santé fragile avec avec Jeanne de Chantal.
Les visitandines.
C'est ça.
Une règle pas trop austère, c'est ça, oui. Et donc, c'est aussi vous, ce charisme-là, de permettre une vie monastique à des personnes qui, dirons-nous, ne supporteraient peut-être pas une vie monastique, même si dans la règle de Saint-Benoît, il est dit qu'on ne mettra rien de trop lourd ou de très pesant pour ne pas rebuter un peu ceux qui voudraient vivre la vie monastique.
Exactement. Le charisme de notre congrégation, c'est de permettre à des frères de santé fragile de mener la vie monastique tout en accueillant des frères plus vaillants. Et notre vie est basée sur ce partage de vie.
De santé fragile, ça veut dire vous accueillez des personnes qui ont des affections de longue durée, un âge peut-être avancé ou des parcours de vie cabossés, chaotiques ou difficiles?
On est ouvert à la fragilité quelle qu'elle soit, mais le fait est que on est principalement des frères qui avons des fragilités psychiques.
D'accord, donc différents troubles, des dysphasies, des dyspraxies, des troubles à caractère autistique.
Oui, et puis des troubles de bipolarité, des troubles de schizophrénie, de dépression.
Eh bien, en tout cas, c'est notre dame d'espérance. Et oui, Saint-François de Sales est encore là dans les parages parce qu'il a eu aussi des affres et des grands troubles aussi dans le début de sa vie spirituelle où il a été très affecté au niveau de son psychisme qui était certainement très fin et très délicat et qui a été écrasé par une certaine vision rigoriste et dramatique de la vie spirituelle. Et Notre-Dame d'Espérance, est-ce que c'était Notre-Dame d'Espérance? Je ne sais pas, mais... Une Vierge magnifique, noire comme ça.
Oui, à Paris, à Paris.
À Paris, oui. Et quel est le fondateur ou d'où vient cette intuition, disons? Enfin, quelle intuition aussi? En fait, Saint Antoine le Grand aujourd'hui, c'était déjà dans le désert, on accueillait aussi bien volontiers.
Oui, tout à fait. Notre fondateur, si vous voulez, c'est le père Henri-Marie Guillouis, qui a passé 30 ans au monastère Saint-Paul de Visque de la congrégation de Solesmes. Et ayant eu à recevoir des candidats à la vie monastique, il avait regretté que, pour des raisons de santé, handicap ou autre, il ne pouvait pas entrer dans le monastère ou il ne pouvait pas persévérer. Au bout de quelques temps, il ne tenait pas le rythme. Donc il s'est dit, ce n'est pas normal que les richesses de la vie monastique ne soient pas offertes aussi à ces personnes.
Oui, parce que c'est aussi beaucoup de sagesse, même au point de vue simplement humain, la vie monastique, et en particulier la règle de Saint-Benoît, c'est d'un équilibre d'une humanité, comme il est dit, qui permet de s'adapter justement à tous ces chercheurs de Dieu authentiques, oui.
Mais c'était aussi peut-être principalement, surtout à l'époque, la fondation a démarré le 1er octobre 1966 dans le diocèse d'Amiens, car les abbés de Visque et de Solesmes ont préféré que le père Guillouis se range sous l'autorité d'un évêque. Ce n'était pas une fondation de Solesmes. Voilà.
Vous voudriez dire que Solesmes s'est un peu désolidarisé?
C'est pas tout à fait ça, mais enfin bon, ils ne voulaient pas s'engager officiellement, hein, mais ils ont toujours été très bienveillants pour le Père Guilluy, et nous sommes associés à l'ordre bénédictin depuis 1989 pour des raisons assez, disons, d'organisation, c'est-à-dire que le Saint-Benoît prévoit que le Père Abbé, le supérieur, est élu par ses moines. Chez nous, nous avons une organisation un peu plus centralisée. Nous avons plusieurs prieurés et le prieur général n'est pas abbé, mais il est élu par l'ensemble des frères, donc pas par les membres de la communauté, quoi. Donc, à cause de cette caractéristique, nous sommes diocésains et donc nous sommes simplement associés à l'ordre bénédictin, mais nous sommes membres à part entière de la Conférence monastique de France.
Et dites-nous, combien êtes-vous à vivre sous la règle de Saint-Benoît ici au prieuré Saint-François de Sales, et combien êtes-vous sinon dans la congrégation elle-même de Notre-Dame d'Espérance?
Au prieuré Saint-François de Sales, nous sommes 16 frères. Dans la congrégation, on est 115. Il y a 112 moines. Aujourd'hui, il y a deux novices et un postulant.
Et l'équilibre des âges est relativement respecté? Ce n'est
Bon, nous sommes un peu en vieillissement, si vous voulez, si bien que sur les statistiques, nous avons une moyenne d'âge de 62 ans, ce qui fait quand même assez âgé, mais parce que le poids des plus âgés pèse sur les statistiques, si on peut dire quoi. Mais nous avons quand même des frères plus jeunes, dont le frère Mathieu Combe qui est à côté de moi.
Dites-nous donc, vous vivez sous la règle de Saint-Benoît, vous avez donc entièrement une vie monastique, c'est-à-dire dans l'obéissance au Père Abbé, dans la grande place qui est donnée à la vie liturgique, à l'œuvre de Dieu, au culte divin. Tout
Tout à
ceci
fait.
fait partie de votre vie.
Tout à fait. Nous avons le frère Mathieu, comme vous a dit tout à l'heure, nous avons des six offices. Et simplement, le premier office habituel, qui est l'office de matine, chez nous est tout à fait facultatif. La grande majorité des frères ne peuvent pas participer à cet office parce que la grande majorité, ont besoin d'un sommeil prolongé, quoi.
Et vous vivez du travail de vos mains?
Ici, au prieuré Saint-François de Sales, on fabrique des paniers en bois d'érable. On a un atelier et puis des frères travaillent dans cet atelier et on vend nos paniers par correspondance avec des personnes qui nous passent commande, mais aussi sur des marchés monastiques. Dans l'année, on va faire un certain nombre de marchés pour vendre nos paniers et donc ça fait une source de revenus pour le monastère. Après, dans d'autres monastères de la congrégation, ils vont avoir un artisanat spécifique. Par exemple, au monastère de Rennes, ils fabriquent des chapelets. Il va y avoir des frères qui vont écrire des icônes. Chaque monastère a, son artisanat.
Très bien. Et est-ce qu'il y a en ce moment, est-ce qu'il y a certains projets qui tiennent à cœur au prieuré Saint-François de Sales?
La congrégation, donc j'inclus le prieuré Saint-François de
Dans la
Sales, la
congrégation?
congrégation elle-même est entrée dans une phase de relance où on réfléchit à comment parler de nous, comment mieux nous faire connaître, et puis on réfléchit aussi à notre structure. Aujourd'hui, on est 9 prieurés. Voilà, est-ce que à l'avenir, il y aura un regroupement de ces prieurés? Pour parler de nous, on est en train de travailler sur un site internet. Comment mieux valoriser notre charisme? Comment mieux mettre en lumière cette richesse de vie, qu'est le partage de nos fragilités? Tous, on a des fragilités, d'une manière ou d'une autre, et sous le regard de Dieu, ces fragilités deviennent une force. Comment mieux parler de cette grâce que nous vivons et comment mieux nous faire connaître pour donner envie aussi à des jeunes de nous rejoindre.
Quand vous parlez de ces fragilités qui sont constitutives de nous, et vous, comme vous dites que vous vivez peut-être avec plus de fragilités répertoriées ou classifiées, qui sont peut-être pas les plus dangereuses d'ailleurs, hein. C'est beaucoup le pardon, donc, qui fait le fond de votre vie fraternelle. Vous sentez, est-ce que c'est ce pardon-là qui a une grande place, peut-être, pour l'équilibre?
Oui, vous savez, dans la règle de Saint Benoît, lorsque Saint Benoît parle de l'office de l'aude, il dit que le Père Abbé, tous les jours, commencera notre Père à cause des épines de discorde qui ont habituellement se produisent dans le monastère afin que les frères se pardonnent par la prière. Et donc, vous voyez que pour tous les moines, le pardon, et pour tous les chrétiens et pour tous les hommes, le pardon compte beaucoup. Donc on se met tout à fait dans cette ligne-là.
Oui, donc là vous êtes des enfants de Saint-Benoît. Et avec toute la place à la lecture divina, la lecture aussi amoureuse et recueillie de la parole dans dans vos cellules, vous avez des cellules, c'est
On a des cellules et
individuel.
chaque frère a un temps après la messe, dans la matinée, de lectio divina qui dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Et chaque frère est invité à vivre de cette prière qu'est la lectio divina et à rencontrer le Seigneur dans sa parole.
Nous avons aussi un autre temps de lectio divina le soir, après environ de 5, de 17h à 18h, quand il n'est pas occupé par des interventions de l'un ou l'autre, en particulier auprès des plus jeunes, des novices ou bien des partages d'évangiles.
Et vous avez certainement alors cette tradition d'accueil qu'il y a dans la règle de Saint-Benoît, où vous avez une hôtellerie où on peut venir. Est-ce qu'on peut venir vous rencontrer?
Exactement. On a une hôtellerie qui n'est pas très grande, on a 7 chambres. Et on accueille régulièrement des hôtes qui veulent venir vivre un temps de retraite. Et à ce moment-là, ces hôtes participent, s'ils le désirent, à nos temps de prière, à la liturgie des heures ou à l'Eucharistie.
Très bien. Ensuite, écoutez, au niveau de la règle de Saint-Benoît, là, il me semble que j'ai fait le tour, hein. Vous voyez quelque chose à dire?
J'aimerais insister sur le fait, c'est quelque chose pour notre congrégation qui est au cœur de notre vocation de moine de Notre-Dame d'Espérance, c'est vraiment la dimension de la fraternité. Comme tous les moines, on vit des 3 piliers que sont la prière, le travail et la vie fraternelle. Et tous ces 3 piliers sont connexes les uns avec les autres. Chez nous, la vie fraternelle occupe une place importante dans le sens où elle est véritablement lieu de la rencontre avec Dieu. À travers le frère qui est plus fragile, il y a vraiment une rencontre avec Jésus et parfois Jésus crucifié. Et donc il y a cette dimension de vie fraternelle qui est extrêmement importante pour nous et pour chacun de nous avec nos fragilités qui peut avoir une dimension thérapeutique. On croit vraiment que la vie fraternelle guérit le cœur. Et Saint Benoît insiste beaucoup dans sa règle sur la place des plus faibles, des plus fragiles. Et j'ai envie de dire que Notre-Dame d'Espérance, c'est vraiment cet accent que l'on met sur la place des plus petits.
J'ajouterais aussi que dès l'origine, de par notre fondateur, à côté de la règle de Saint-Benoît, notre fondateur s'est inspiré de la spiritualité de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et du frère Charles Le Foucault. Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que il est certain que les fragilités de santé ou autres invitent à embrasser la petite voix de Sainte-Thérèse, qui elle-même a fait l'expérience de ses limites. Et puis, Charles de Foucault, notre fondateur était assez marqué par la vie de pauvreté de Charles de Foucault, mais plus encore peut-être par la simplicité de vie de Charles de Foucault, qui se voulait frère universel.
Et surtout qu'on le considérait aussi un peu comme un fou, excusez-moi, hein, le père Charles de Foucault, il se laissait railler, insulter par les petits-enfants, il était en loquin hein, aussi, hein, on ne le prenait pas
Oui,
pour
à
un gars
Nazareth, oui, à
pas très
Nazareth.
sérieux non plus. Hein.
Il y a à Notre-Dame d'Espérance, ici à Évian, mais dans les, je crois que c'est vrai pour l'ensemble des monastères de notre congrégation, quelque chose de la joie qui ressort. Avant d'être moine de Notre-Dame d'Espérance, j'étais religieux dans une autre communauté. Et j'ai rencontré Notre-Dame d'Espérance, et ce qui m'a profondément marqué en rencontrant les frères, c'était que ces frères étaient plus fragiles que moi, ils étaient plus malades que moi, et ils étaient plus heureux que moi. Et je me suis dit que ces frères avaient quelque chose à m'apprendre. Et quelque chose que l'on peut vraiment toucher dans nos petits prieurés, c'est cette dimension de la joie. Oui, il y a la maladie qui est présente, il y a la souffrance qui est présente, il y a la faiblesse, mais tout ça vécu en Dieu nous donne une grande force et une joie profonde. Et en ce sens-là, c'est vraiment la vie évangélique qui est vécue.
Oui, il y a eu des maladies plus spirituelles et beaucoup plus graves dans la vie du monachisme bénédictin. Il y a eu, on voit les grandes époques de superbe, de pompe, d'affadissement, où il y a eu des époques bien sûr, où il y a eu aussi bien des épreuves. Et là, j'imagine que c'est pas en tout cas le lieu le plus dangereux, cette pauvre humilité, cette dépendance que vous avez en fait, hein.
Oui, absolument. Et on croit profondément que le Seigneur ne nous aime pas malgré nos blessures, mais que le Seigneur nous aime avec nos blessures et que ces blessures deviennent lieu de rencontre avec Jésus.
Ben, ça me fait penser à ce que disait Saint Bernard de Clairvaux quand il disait on avance plus vite en fait en étant boiteux sur ce chemin de la rencontre avec le Seigneur, on avance plus vite en étant boiteux qu'en étant bien doué sur ses deux jambes à courir. Il en a fait
Exactement.
l'expérience aussi de grande fragilité, Saint Bernard, tout docteur de l'Église et esprit de premier ordre qu'il était.
Absolument. Et une des forces de Notre-Dame d'Espérance, c'est que l'on pourrait croire que les frères plus vaillants portent les frères plus fragiles, ce qui dans une certaine mesure est vrai, mais l'inverse est aussi vrai, c'est que les petits frères portent les frères plus vaillants. Chacun reçoit, et c'est ça qui est assez extraordinaire. La rencontre avec l'autre, la rencontre avec le frère, c'est un lieu de dépouillement et c'est un lieu aussi qui nous unifie. Et en ce sens-là, il y a vraiment une rencontre avec l'autre qui est Dieu.
Eh bien, Père Jean-Yves, frère Mathieu Combes, c'est remarquable de vous entendre. Et là, vous prenez le chemin de vous faire connaître. C'était ça aussi la démarche de venir vers Radio Maria. Vous connaissiez cette radio?
On la connaissait comme cela, mais je veux dire, c'est. Je sais pas son prénom, mais. Madame Feuillet, je ne sais pas, je ne me rappelle plus son prénom, qui nous a appelés, hein, qui nous a appelés pour savoir si nous pouvions participer, et nous sommes réjouis de pouvoir participer. Et comme nous sommes un peu, comme l'a dit le frère Mathieu Combes, en recherche pour nous faire mieux connaître, eh bien, nous avons tout à fait adhéré à cette rencontre.
Parce que de notre côté, nous sommes une radio aussi avec une large place faite au bénévolat.
Oui,
Donc,
c'est ça,
vous
oui.
voyez, à une proximité avec les personnes où elles en sont.
Oui.
C'est voilà.
D'ailleurs, on a parlé de l'hôtellerie, mais c'est vrai que c'est variable selon l'emplacement, l'histoire des prieurés, mais nous avons aussi des personnes qui sont proches du monastère et qui, selon par exemple la tradition monastique, choisissent d'être ce qu'on appelle oblats séculiers, c'est-à-dire c'est un peu un tiers ordre, entre guillemets, hein, de l'ordre bénédictin. Donc les personnes qui veulent vivre la spiritualité de Saint-Benoît, particulière à Notre-Dame d'Espérance, dans le monde et tout en fréquentant nos prieurés, quoi.
Eh bien, en tout cas, c'était une grande joie de faire cette découverte avec vous, surtout dans la fête qui est celle d'aujourd'hui de Saint-Antoine le Grand, le père des moines. Et certainement, il y avait beaucoup aussi de personnes abîmées de toutes parts et de toutes sortes, mais qui néanmoins ont été unis avec le Seigneur dans le désert et dans une recherche ardente, oui.
Oui, et je pensais justement en célébrant ce matin la fête de Saint-Antoine. Hein, il y a une très belle page de l'histoire de Saint-Antoine qui est dans ses débuts. Dans ses débuts, eh bien, il a cherché autour on les appelait les ascètes, enfin des hommes qui étaient un peu engagés dans la vie parfaite. Il a cherché à les rencontrer pour chez chacun trouver un peu la vertu qu'il exerçait le plus. Et Saint Athanase, l'auteur de la vie de Saint Antoine, eh bien, dit que comme une abeille, il butinait sur ses fleurs qui étaient chacun et il en tirait son miel. Et je trouve ça très, très beau et c'est un peu exemplaire aussi de notre vie dans les monastères et de notre vie notamment dans les communautés de notre âme d'espérance, quoi.
On est aussi aujourd'hui le 17 janvier, et le 17 janvier, c'est la fête de Notre-Dame de Pontmain, Notre-Dame de Pontmain qui est invoquée sous le vocable de Notre-Dame d'Espérance.
Ah, ben oui. Et Notre-Dame de Pontmain, dont à chaque fois que il y avait des Ave Maria ou des prières, elle devenait de plus en plus belle, de plus en plus radieuse,
Exactement,
et qui disait, mais
exactement.
priez, priez donc, mon fils se laisse toucher. Et à chaque
Et nous, on est ici à Notre-Dame d'Espérance, on est vraiment témoin de ça, que la prière fait des merveilles et que oui, Jésus se laisse toucher par la prière. Et Jésus nous accorde des grâces par la prière et nous aide à nous accueillir tels que nous sommes et à nous accueillir les uns les autres. Et ça, c'est vraiment le fruit de la prière.
Eh bien, sur ces paroles bénies, frère Mathieu Combes et père Jean-Yves, c'est l'heure pour moi de vous remercier de cette
Merci,
émission,
Olivier.
d'avoir fait ce cadeau à nos auditeurs de vous connaître.
Merci beaucoup.
Merci.